le magazine des Nations Unies.
Au processus électoral en RDC, la MONUSCO regrette le nouveau report. Cependant, elle dit n'accepter aucune forme de violence en cette période cruciale. Vous aurez les explications de sa porte-parole dans quelques instants. Un procureur canadien nommé pour appuyer l'enquête sur l'assassinat des deux experts de Nations Unies au Kasaï, le Conseil de sécurité, veut donc donner un coup de pouce à cette enquête. Dans sa santé, flambée de choléra dans le Congo central, des mesures urgentes s'imposent pour lutter efficacement contre l'épidémie. Le ministre de la Santé publique et une délégation de l'UNICEF s'en sont rendus compte à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lavage de mains à Kinshasa. Vous suivrez le reportage de Jean-Pierre Elalé et Coco ainsi que l'interview que lui a accordé le docteur Oli Ilunga en marge de cette mission.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour, la MONUSCO regrette le nouveau report des élections en RDC et dit qu'elle n'acceptera aucune forme de violence d'où qu'elle vienne. C'est sa réaction à la publication du calendrier électoral par la CENI, une réaction rendue publique mercredi au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Florence Marchal, porte-parole intérimaire de la mission, réaffirme le mandat de la MONUSCO tel que repris dans la résolution 2348 du Conseil de sécurité, à savoir la protection des civils, le soutien à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre ainsi que l'appui technique et logistique à la CENI. La MONUSCO explique ce qu'elle entend par ne cautionner aucune forme de violence. Explication de Florence Marchal au micro de Jean-Pierre Ilali Coco.
Effectivement, nous n'acceptons et ne cautionnons aucune forme de violence. Aucune, ça veut dire violence venant de toutes parts. Violence pourrait venir de manifestants à qui nous reconnaissons, mais c'est pas nous d'ailleurs, c'est la constitution congolaise, le droit de manifester, mais à qui nous rappelons que le droit de manifester s'accompagne du devoir de manifester pacifiquement et sans violence, d'une part. Et d'autre part, nous appelons les autorités de ce pays à respecter les libertés fondamentales, dont celle de réunion et de manifestation, mais aussi à faire usage de la force de façon mesurée et proportionnée.
Vous allez vous limiter à condamner, si bien tout simplement il y aura des mesures que la MONUSCO pourra être amenée à prendre.
Alors je vous rappelle que la sécurité des biens et des personnes est une mission régalienne du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas à la MONUSCO d'intervenir en cas de violence.
Florence Marchal est l'invitée du magazine des Nations Unies. Restons aux Nations Unies avec la nomination cette semaine par le secrétaire général de l'ONU d'un procureur canadien pour donner un coup d'accélérateur dans l'enquête sur le meurtre de deux membres du groupe d'experts assassinés en mars dernier dans le Kasaï. Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies demande au gouvernement de la RDC de mener une enquête complète sur ce double meurtre. Jean-Pierre Ilali Koko fait le point.
Il s'agit pour le Conseil de sécurité d'essayer de pousser les choses dans cette enquête. Et pour ce faire, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé le procureur canadien Robert Petit et d'autres experts pour en fait aider la justice militaire congolaise à suivre ses dossiers. Les conseils de sécurité demandent donc à Kinshasa de collaborer avec cette équipe afin que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice. Pour rappel, c'est au cours de sa réunion du 17 août dernier que le conseil de sécurité a appelé le secrétaire général de l'ONU à mettre en place une enquête internationale sur la mort de deux experts de l'ONU. Aïda Catalan et Michael Sharp ont été tués le 7 mars 2017 dans la province du Kasaï alors qu'ils enquêtaient sur les violences dans la région.
Autre actualité, c'est la flambée de choléra dans le Congo central. Près de 3500 cas, dont 86 décès enregistrés cette année. Selon la division provinciale de la santé, la situation est alarmante et demande la mobilisation de toutes les énergies pour lutter contre cette épidémie. Le ministre de la Santé, accompagné du représentant adjoint de l'UNICEF, s'est rendu à Kinshasa, dans le territoire de Songololo, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lavage de mains. Jean-Pierre Ilali Koko a accompagné la délégation dans son reportage.
Parmi les 31 zones de santé du Congo central, la zone de santé de Kinshasa est la plus affectée par le choléra, avec 1018 cas, dont 28 décès. C'est pour cette raison que le ministre national de la Santé l'a choisi pour présider la cérémonie de la journée de lavage de mains. Les représentants des communautés peint un tableau sombre et sollicitent l'aide du gouvernement.
Il y a encore de sérieux problèmes dans nos villages, voire même dans nos centres urbains. C'est comme cela que nous lançons un appel à travers vous, pour que vous puissiez être notre interprète, pour que la Régie des eaux puisse quand même fournir des efforts de nous aider à alimenter de l'eau dans tous les coins du centre.
Le ministre Oli Ilunga reconnaît l'existence de l'épidémie et recommande aux communautés locales de mesures d'hygiène.
Nous sommes réunis ici pour justement célébrer, commémorer la journée mondiale du lavage des mains et de la toilette. C'est un geste qui est pourtant simple, qui permet d'éviter beaucoup de maladies.
Et annonce d'autres réponses aux préoccupations des communautés locales.
Les initiatives du gouvernement à travers mon ministère a été de créer le programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les maladies diarrhéiques. Et dans le cadre de ce programme, nous allons également créer un centre des opérations d'urgence qui coordonne à partir du cabinet toutes les opérations de riposte et de lutte contre le choléra à travers le pays.
Pour sa part, le représentant adjoint de l'UNICEF, Jean-Ludovic Metteni, rappelle l'importance du programme École et Village Assainis.
Ce programme a permis d'intervenir dans 22 provinces du pays où 6,5 millions de personnes vivant en milieu rural, plus d'un million d'enfants allant à l'école primaire, ont bénéficié de l'amélioration des pratiques d'hygiène à travers l'accès à l'eau, à l'hygiène et à un assainissement amélioré.
Dans l'après-midi, le ministre de la Santé anime une conférence débat à Lukala dans la zone de santé de Kwilungongo. Il lance un plaidoyer aux entreprises, bailleurs de fonds et autres partenaires pour accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre le choléra. Enfin, Lufu, dernière étape, à une centaine de kilomètres de Kimpese. Cette cité frontalière avec l'Angola et carrefour commercial est touchée elle aussi par le choléra. Même discours sur les mesures d'hygiène. Le ministre Ilunga promet, avec l'aide des partenaires, de doter la cité des points d'eau potable. De retour du Congo central, Jean-Pierre Elali Ikoko.
Nous recevons tout de suite après le docteur Oli Ilunga dans le décryptage. Magazine des Nations Unies, décryptage. Comme annoncé plus haut, le ministre de la Santé publique, Oli Ilunga, a effectué du 3 au 4 novembre au Congo central une mission conjointe avec l'UNICEF RDC dans les zones de santé de Kimpese, Sonampango et Kwilungongo, des zones affectées par l'épidémie de choléra à cause notamment du manque d'eau potable. C'est donc en marge de cette mission que le ministre a répondu aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Docteur, la population, par l'intermédiaire du représentant communautaire, parlait du problème de l'eau potable et aussi de l'élargissement du programme Village Assaini pour combattre le choléra. Quelle est la réponse du gouvernement?
Donc d'abord, il faut savoir que pour le choléra et le lavage des mains, les mesures d'hygiène, c'est ça la base de la lutte et de la prévention contre le choléra. Toutes les mesures qui sont prises par le programme de lutte contre le choléra, ce centre qui est mis en place, ce sont des mesures pour la prise en charge médicale. Donc c'est pour réduire la morbidité et la mortalité. Mais la vraie lutte contre le choléra, je crois que c'est la lutte qu'on doit faire dans les communautés pour justement les sensibiliser, les amener à un changement de comportement, à toujours essayer de boire de l'eau, soit traitée, soit bouillie, à se laver les mains avec de l'eau chlorée. Ce sont ces habitudes-là qu'on doit mettre en place dans la population. C'est ça qui changera et qui cassera la chaîne du choléra.
Oui, carrément, ça réduit un problème de l'eau qui se pose ici. Mmh. Mais on a parlé de la Régie des eaux, on a parlé aussi des problèmes des villages assainis. Moi, je reviens à ma question. Que peut faire le gouvernement pour l'instant?
Le plus important, je pense que le programme Village Assaini, c'est un programme qu'on continue à renforcer, c'est un programme qui doit continuer. Rome ne sait pas faire en un jour, on ne sait pas faire tous les villages en un jour. Ça reste un programme important pour l'émergence de la nation, comme je l'ai dit dans mon discours. Donc ça reste une priorité. Alors pour la question de l'eau, il faut savoir aussi que l'aménagement de l'eau, ça nécessite de très très gros investissements en termes d'infrastructures. Ça veut dire que il faut faire toute une étude, un plan, mais pluriannuel, pour redimensionner la capacité de la distribution d'eau, repenser la distribution d'eau. Et c'est pour ça que je disais dans mon discours que dans le plan national de développement, l'accès à l'eau est une des priorités et donc il y aura vraiment des projets d'envergure à travers tout le territoire de la République. Pour vous donner une idée, rien que dans la ville d'Ouvira, le projet qui est en cours avec l'Union européenne, la fondation Veolia. C'est un projet de l'ordre de 10 millions de dollars. Donc en fait, c'est des gros projets d'investissement qui ne sont pas de la capacité de mon ministère, mais ça, c'est avec le ministre du plan, dans le cadre du plan d'éradication du choléra. On a vraiment prévu un plan pluriannuel d'envergure pour la distribution de l'eau. Je salue le travail qui a été fait par l'équipe médicale qui est ici présente, avec le responsable de cette cellule de ce centre de traitement, qui correspond mais vraiment parfaitement aux normes. Je crois que les circuits sont parfaitement respectés, les points de chloration sont parfaitement respectés. Il y a juste une petite chose qu'on peut essayer de dire, c'est qu'on va peut-être essayer de rajouter un nouvel espace, une nouvelle tente, justement pour améliorer le confort des malades.
Une dernière question, demain vous vous rendrez à Lufu, frontalier avec l'Angola. Mmh. On sait qu'il y a de ce côté-là aussi un trafic de personnes, et là aussi c'est une source de choléra en quelque sorte. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour contrôler du moins l'entrée des suspects de ce côté-là?
Je pense que d'abord il faut dire que le plus important c'est le sens des responsabilités de tout le monde, le sens civique des citoyens. Vous savez que le choléra est entré en RDC en 1974 ici au Congo central par des cas qui venaient d'Angola. Du côté de Kalemie, le choléra est entré en venant de Tanzanie, mais là aussi c'était des personnes inciviques qui n'ont pas respecté les consignes et qui sont malgré tout entrées en RDC et qui ont amené le choléra à Kalemie. Donc je crois que le plus important c'est d'insister sur le sens civique des citoyens, et je pense qu'aussi avec quand même les autorités angolaises, nous devons essayer d'augmenter la collaboration sanitaire transfrontalière pour justement essayer de mieux contrôler les flux migratoires et les échanges commerciaux entre les deux pays.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Ok, merci aussi.
Nous ouvrons cette page avec cette nomination, celle de la nouvelle représentante spéciale adjointe auprès de la MONUSCO en RDC. Madame Kim Bolduc, de nationalité canadienne, a été nommée le 1er novembre dernier pour succéder à Mamadou Diallo, arrivé fin mandat en octobre 2017. Madame Kim Bolduc assumera ainsi les fonctions de coordonnatrice résidente des Nations Unies et de coordonnatrice humanitaire et représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle a assumé ces mêmes fonctions au Panama, en Haïti et au Brésil. Volet droit de l'homme et médias, 25 journalistes de Lubumbashi dans le Haut-Katanga ont participé cette semaine à un atelier sur le droit et devoir des médias en période électorale, un atelier organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec la section de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO au Lubumbashi. Les participants ont été édifiés sur plusieurs sujets, notamment le cadre juridique des élections en RDC, les piliers de la résolution 2348, la protection des civils et appui de l'accord du 31 décembre 2016 et la problématique de la sécurité du journaliste dans le contexte électoral. Enfin, la RDC dispose désormais d'une expertise en matière de planification communautaire participative, selon un communiqué du bureau de la FAO-RDC, rendu public mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Une trentaine d'experts dans ce domaine ont été formés à Goma, au Nord Kivu. Et pour cette formation, des experts sont venus du siège de la FAO à Rome, du PAM et du FIDA, et d'autres partenaires venus notamment de Kigali, Djibouti, Nairobi et Johannesburg. Sur base des leçons apprises et de recommandations issues des travaux, les facilitateurs de la planification communautaire participative ont défini les prochaines étapes pour la mise en œuvre de cette approche. Et c'est le village de Rousseke, son territoire de Routour dans le Nord Kivu, comptant près de 420 ménages, qui a été retenu comme terrain d'expérimentation de la phase pratique.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invitée ce dimanche est Florence Marshall, porte-parole intérimaire de la MONUSCO. Elle réagit à la publication du calendrier électoral par la CENI et rappelle le droit de manifester et l'usage proportionné de la force en cette période cruciale du processus électoral. La porte-parole, AI, répond aux questions de Jean-Pierre Ilali Coco.
Florence Marshall, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la réaction de la MONUSCO à la publication du calendrier électoral de dimanche dernier par la CENI?
Alors, nous avons pris connaissance de ce calendrier que nous sommes en train d'étudier avec attention. Nous regrettons que ces élections, qui sont cruciales pour l'avenir de la République démocratique du Congo, soient une nouvelle fois reportées. Mais en même temps, nous continuons à appeler les hommes politiques de tous bords à placer les intérêts de leur pays et de leur peuple au-dessus de toute autre considération et à s'engager pour la tenue d'élections crédibles, libres et justes. Nous l'avons souvent dit, la publication du calendrier électoral fait partie d'un processus qui est celui de la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre en conformité avec la Constitution congolaise. Cela implique que les plans de financement et de décaissement du gouvernement pour mener à bien les prochaines élections soient également publiés. Cela signifie aussi que les mesures de décrispation soient mises en œuvre et que le respect des droits et libertés fondamentales soit garanti. Nous pensons notamment à la liberté de réunion et à la liberté d'expression.
La conférence hebdomadaire des Nations Unies de tout à l'heure, vous avez dit ceci, je vous cite, « La MONUSCO n'acceptera aucune forme de violence pendant cette période préélectorale. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'est un avertissement vers l'opposition qui pourra éventuellement manifester ou bien c'est tout simplement vous adresser à tout le monde? Est-ce que vous pouvez expliciter votre idée?
Effectivement, nous n'acceptons et ne cautionnons aucune forme de violence. Violence qui pourrait venir de manifestants, à qui nous reconnaissons, c'est pas nous d'ailleurs, c'est la Constitution congolaise, le droit de manifester, mais à qui nous rappelons que le droit de manifester s'accompagne du devoir de manifester pacifiquement et sans violence, d'une part. Et d'autre part, nous appelons les autorités donc de ce pays à respecter les libertés fondamentales, dont celle de réunion et de manifestation, mais aussi à faire usage de la force de façon mesurée et proportionnée. Donc, quand je dis que nous n'acceptons et ne cautionnons aucune forme de violence, quelle que soit l'origine de la violence.
Vous allez vous limiter à condamner ça ou bien tout simplement il y aura des mesures que la MONUSCO pourra être amenée à prendre pour que cela ne se tienne pas ou même si cela s'éteint qu'on puisse d'une façon ou d'une autre prendre ses responsabilités.
Alors je vous rappelle que la sécurité des biens et des personnes est une mission régalienne du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas à la MONUSCO d'intervenir en cas de violence, comme cela est le cas à chaque fois qu'il y a des événements dans ce pays. La MONUSCO, par l'intermédiaire de plusieurs de ses composantes, je pense au Bureau des droits de l'homme, la police des Nations Unies notamment, effectue des missions de reconnaissance, d'observation, afin de pouvoir, d'une part, documenter ce qui se passe, établir exactement les faits, et ensuite, si nécessaire, dénoncer d'éventuels violation aux droits de l'homme. Ce qui est très important pour nous, c'est que le respect de tous les droits de l'homme soit vraiment garanti à tout le monde, et plus particulièrement en cette période de transition qui peut être un petit peu trouble.
Une toute dernière question. Les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies a toujours mené de bons offices entre les différents acteurs de la politique congolaise. En quoi va consister les bons offices du représentant spécial en cette période si délicate de la transition?
Alors en effet, le représentant spécial du secrétaire général, M. Maman Sidikou, ne ménage aucun de ses efforts pour pouvoir mener les bons offices. Il rencontre toutes les parties prenantes en permanence, 7 jours sur 7. Et dans quel objectif? Pour soutenir le processus politique dans le cadre d'une transition pacifique. Et une fois encore, les Nations Unies souhaitent favoriser une alternance politique dans le pays. Souhaitent, le moment venu, et là maintenant on a un calendrier, les Congolaises et les Congolais puissent se rendre aux urnes et choisir les personnes et les institutions qui dirigeront ce pays et qui mèneront ce pays sur la voie d'une paix durable et sur celle du développement.
Florence Marchal, Radio Capi, vous remercie.
Merci bien.
Campagne sur la patrie dit ici à Goma en Nord Kivu, une centaine de réfugiés urbains accompagnés des artistes peintres locaux ont réalisé une peinture murale au bureau du HCR. C'était lundi 6 novembre dernier dans le cadre de la campagne lancée en 2014 pour mettre fin à la patrie dit dans le monde d'ici 2024. Campagne placée sous le thème I belong, en français j'appartiens. Gloria Ramazani, associée aux relations extérieures du bureau HCR Goma, évoque ici l'intérêt de cette activité. activité des micros de Mac Omaro Fimbo.
C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la campagne qui s'appelle I Belong, où j'appartiens en français. Une campagne qui vise en fait à sensibiliser la communauté, les politiques et les familles, les parents pour la prévention des risques d'apatridie. Et pour la RDC, nous focalisons nos activités sur la prévention en prônant l'enregistrement des naissances des enfants à l'état civil dans les 90 jours de leur naissance. Il y a maintenant de plus en plus de personnes apatrides dans le monde. Et en RDC, étant donné qu'il n'y a pas encore d'apatrides, mais nous sommes en train de travailler sur la prévention. C'est pour ça que le bureau de Goma a jugé bon d'organiser cette activité artistique pour que les jeunes, les parents et tous les passants puissent contribuer à passer un message qui va rester sur nos murs à travers ce graffiti. Et lorsque les personnes vont passer, elles vont retenir un message et ça contribue aussi à la sensibilisation.
Signalons que la dite campagne a connu la participation des organisations partenaires du HCR dans ce domaine, notamment la CNR, AIDES, MIDEFEOPS et la maison artistique UJADEP.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Réduction des effectifs, coupe budgétaire à la MONUSCO, c'est la question de notre consoeur Panzou de RTL à la conférence hebdomadaire mercredi dernier. La porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal, donne des éléments de réponse. Suivez.
C'est Elvira Panzou pour le compte de la RTL. Il y a une vague des agents de la MONUSCO dont les contrats ont été résiliés, précisément les journalistes de la radio Capi. Et nous apprenons également par des bouches indiscrètes que d'ici janvier 2018, la MONUSCO va encore régresser. C'est une nouvelle stratégie de sortie de la MONUSCO en RDC ou qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que la MONUSCO donc, tient son mandat du Conseil de sécurité et son budget de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les budgets de la MONUSCO sont des budgets qui vont de juillet à juin. Le budget pour de juillet 2017 à juin 2018 a connu une réduction de 8%, ce qui a entraîné à la fois des coupes dans les dépenses de la mission, mais aussi dans les effectifs. Les effectifs civils et les effectifs militaires. Donc, effectivement, cette réduction budgétaire a contraint la mission à ne pas renouveler certains contrats qui arrivaient à terme et avec des procédures qui encadrent ces processus de séparation. Mais cela n'est absolument pas lié au retrait de la mission. Il y a un dialogue stratégique qui est en cours à ce sujet. La mission sera amenée un jour à quitter ce pays, car ce n'est pas la nature d'une mission de maintien de la paix à rester indéfiniment dans un pays. Mais là, on est vraiment sur une situation budgétaire. On avait un budget de 1,235 milliards l'année dernière. Cette année, il est de 1,14 milliards, avec une baisse de 94 millions, de 8%. Il faut continuer à remplir notre mandat avec cette enveloppe budgétaire. Et en conséquence, des arbitrages doivent être faits. Et je tiens à souligner que le personnel militaire a été le plus affecté par ces coupes, puisqu'il y a près de 1700 membres du personnel militaire qui ont quitté la mission en raison de ces coupes budgétaires.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi. Je m'appelle Bennasser Yousra, un capitaine, je suis tunisienne de nationalité. Je suis célibataire. Je suis aussi un ingénieur en télécommunications et réseau diplômé de l'Académie militaire en 2009. J'ai intégré la police de la MONUSCO précisément le 2 janvier 2017. Permettez-moi de vous parler un peu de cette expérience que, après un an presque, je juge riche et inoubliable. J'ai fait la connaissance d'un pays magnifique, d'un peuple accueillant et des amis de nationalités variées qui sont très intéressants et aimables. Au sein de l'UIMPOL, je suis chargée de plusieurs tâches à la fois. Premièrement, je suis une conseillère en transmission au sein de la cellule réforme. J'apporte un appui conseil auprès de la direction des services de transmission et de télécommunication et du Centre national de commandement, de contrôle et de coordination, C3C, de la police nationale congolaise. De même, j'appuie l'élaboration de projets destinés à consolider les acquis et renforcer les capacités de nos partenaires congolais dans le domaine de la télécommunication. Deuxièmement, j'exerce en tant qu'officier formateur à l'UFI, l'unité de formation interne. Cette unité est chargée de l'accueil et de l'assistance des nouveaux UIMPOL dès leur arrivée jusqu'à leur déploiement dans l'RDC. Ainsi, j'ai eu à prendre en charge 62 UIMPOL jusqu'aujourd'hui. Troisièmement, je suis aussi un point focal SOA. J'anime des séances journalières de sensibilisation sur l'exploitation et les abus sexuels en faveur du personnel de la cellule réforme. De plus, un point focal welfare où je participe dans l'organisation des activités de bien-être en faveur du UIMPOL comme les cérémonies de pot au revoir, les feux de joyeux anniversaire aux natifs du mois, un contingent à plein et d'autres activités. Chaque jour dans l'ONU est unique et spécial pour moi. On a tout le temps des nouveautés. En fait, ma journée débute tôt le matin par un léger sport matinal. Certes, il faut garder un physique bien entretenu. Ensuite, arrivé au bureau, dès 8h, je consulte ma boîte mail en buvant un bon petit café. Après, conformément à mon plan opérationnel de travail hebdomadaire, je tiens des séances de colocation avec le partenaire PNC pour traiter les dossiers en cours. À mon retour au bureau, je rédige un rapport de mes activités de jour. Je termine ma journée par une séance de sensibilisation SOA pour mes collègues au cours de laquelle nous échangeons sur les questions de bien-être. Avant UIMPOL, je travaillais au ministère de l'Intérieur de la Tunisie, à la Direction générale des services techniques, où j'étais chef de groupe responsable de la maintenance des équipements radio du ministère, du contrôle de l'utilisation optimale du spectre de fréquence pour le ministère et éventuellement d'autres tâches techniques. Ici, je dois avouer qu'avec mes actuelles responsabilités, j'ai très peu de temps libre. Je le passe entre amis. On vit agréables moments ensemble à découvrir d'un part votre pays et de l'autre leur propre culture à eux. D'ailleurs, ils sont marocains, malgaches, ivoiriens et plein d'autres nationalités. Je passe aussi du temps sur Internet, les réseaux sociaux, afin de suivre les nouvelles de ma famille, mon pays natal. De plus, je suis des cours de Zumba dans une salle de sport locale afin de détourner la fatigue, les nuits et le stress. Pour mes préférences, je vous réponds automatiquement et sans hésitation, j'adore le sport et surtout la danse orientale. Elle m'aide beaucoup à garder la ligne. J'adore aussi les voyages. Et je profite de toutes occasions pour découvrir des nouvelles cultures en fait. Celui qui ne voyage pas meurt lentement. C'est mon slogan dans la vie. Sur le plan professionnel, j'envisage de fonder une petite association pour aider les femmes vulnérables, telles que les femmes divorcées, les mères célibataires, les femmes déplacées. Et sur le plan social, je compte me marier et fonder une petite famille. Finalement, je vous remercie chaleureusement pour cette invitation que je considère tant et j'avoue que mon expérience à l'ONU et spécialement en République démocratique du Congo me comble de joie et de satisfaction. Permettez-moi de profiter de cette occasion à travers votre radio pour exprimer ma gratitude sincère auprès du peuple congolais pour son accueil et sa bienveillance. À notre premier responsable, le général Awale Abdonassir, chef de la composante police MONUSCO, pour son précieux encadrement, son soutien et son attention particulière. Sans oublier, bien sûr, tous mes collègues et mes amis à l'organisation. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Voici donc quelques rendez-vous à noter dans vos calepins. Le 14 novembre, c'est la journée internationale des diabétiques. Le 16 novembre, la journée internationale de la tolérance. Et le 19 novembre, la journée mondiale des toilettes. C'est la fin de ce magazine en mise en onde par Jean-Claude Siala. Babin Tongo Massimango était à la présentation. Honoré Mistina Kalala à la réalisation. Jean-Pierre Elali Coco, reportage à la coordination. Martin Sebouzangoué, c'était lui à la supervision. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous, ce sera le dimanche prochain.